En préparant cette homélie, j'ai fait quelques lectures. Je ne sais pas si vous pensez que je prépare mes homélies. En tout cas, voilà, j'ai fait quelques lectures. Et il y a une lecture qui m'a un peu interpellé. C'est le commentaire de saint Augustin sur cet évangile. Il dit quelque chose qui personnellement même m'a bousculé d'un point de vue personnel. Parce qu'il dit en fait que dans l'invitation aux noces, comment on peut le comprendre ? Est-ce que ce sont les baptisés qui ont répondu à l'invitation aux noces ? Et puis il dit, ben non, parce que finalement, il n'y a pas que des bons parmi nos baptisés. Ensuite, il dit, est-ce que c'est ceux qui vont à la messe et qui communient qui sont ceux qui répondent à l'invitation aux noces ? Et il dit, ben non, parce qu'il n'y a pas que des bons non plus dans ce domaine. Et il continue la liste en montrant les caractéristiques du catholique et en disant, ben non, ils ne sont pas toujours vraiment aux noces, en fait. Hein? Alors, ça interpelle parce que ça veut dire que si nous sommes ici, tout de même, ce matin, c'est quand même que nous avons senti un appel, une invitation un jour, que nous avons reçu la grâce du baptême, que nous avons accueilli la foi dans nos vies, que nous avons voulu répondre à cet appel et nous allons à l'Eucharistie tous les dimanches. Mais ce n'est pas parce que nous faisons cela que finalement nous sommes vraiment dans la bonne catégorie de ceux qui ont répondu à l'invitation aux noces. Et nous devons nous interroger sur le fait que comment je peux répondre à l'invitation aux noces. Et donc saint Augustin continue en disant que eh bien, finalement c'est celui qui revêt le vêtement des noces. Hein, donc celui qui répond bien à l'invitation aux noces et celui qui revêt le vêtement des noces. Il y a deux étapes, hein, celui qui vient et celui qui revêt. Et là aussi, il s'interroge, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce vêtement ? Et en fait, il conclura en disant que ce vêtement, c'est sans aucun doute celui de la charité. Hein, que c'est ce vêtement-là qui nous donne d'être vraiment dans la réponse à l'invitation aux noces. C'est parce que nous essayons de marcher et d'avancer dans notre vie, dans tous les aspects. Nous venons à l'Église par charité, par amour de Dieu, hein, même si ce n'est pas un amour ressenti, ce n'est pas très grave. Hein, cela, l'amour, c'est un choix. Hein, on choisit d'aimer. Hein, on peut choisir d'haïr, hein, on le sait bien, mais on peut choisir d'aimer. Et donc, est-ce que je viens par amour à la messe ? Et est-ce que dans ma vie, ensuite, je cherche à développer cette grande vertu, aux côtés de la foi et l'espérance, cette grande vertu théologale qui est celle de la charité. Ainsi, nous revêtons le vêtement des noces. Alors peut-être, on pourra dire, peut-être certains pourront penser que c'est quand même compliqué et qu'on a beau, je voudrais bien, mais j'y arrive pas. Hein, et que, comme dit, il y a une chanson, mais il y a surtout... Il y a surtout une parole de saint Paul qui dit « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Hein, » Donc on peut être face à ce constat. Et je pense que habituellement on est quand même face à ce constat. C'est-à-dire que peut-être on fait un peu de bien, sans doute même, mais on ne fait pas tout le bien qu'on voudrait faire. Et que parfois on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire. Hein, et donc face à ce constat, quoi faire ? Est-ce que c'est qu'on n'arrive pas à revêtir ce vêtement des noces, celui de la charité ? Eh bien, il faut remarquer que dans l'Évangile, il y a cette question du maître qui va voir celui qui n'a pas le vêtement de noces, donc qui n'a pas revêtu la charité, et il lui dit, mais pourquoi es-tu comme ça ? Et en fait, que fait celui qui n'a pas revêtu le vêtement des noces ? Eh bien, il se tait. Il ne répond pas, il ne dit rien. Et en fait, là est une clé de l'attitude que nous devons avoir quand nous sommes face à nos propres limites, à nos inconversions. Hein, c'est que nous devons dialoguer avec le Seigneur. Nous devons en parler au Seigneur. Nous devons lui exprimer nos difficultés. Autrement dit, nous devons prier. Nous devons entrer dans ce dialogue intime avec le Seigneur où on dit « Seigneur, convertis-moi, je serai converti. Seigneur, donne-moi ta charité. Donne-moi la charité qui vient de toi. » sans ce dialogue. Et finalement, c'est suite à ce manque de dialogue, à cette rupture de dialogue, que le maître va mettre dehors cet invité aux noces qui n'aura pas revêtu le vêtement de la charité. Ce vêtement. Et donc, nous, eh bien, recherchons donc déjà de répondre à l'invitation aux noces, et pas simplement de faire une réponse formelle, telle que notre présence ici. Mais notre présence ici, c'est une réponse. Mais il faut qu'elle soit de tout notre être, de tout notre cœur. Que ce ne soit pas simplement une formalité administrative, superficielle, même si c'est de moins en moins le cas, je sais, dans les communautés chrétiennes, d'aller par obligation, parce qu'il faut, parce que c'est comme ça, dans la famille, etc. Mais tout de même, donc, d'y aller vraiment, en y adhérant vraiment, en voulant répondre à cette invitation aux noces. Et puis ensuite, revêtons le vêtement de la charité, revêtons le vêtement, et donc recherchons à vivre dans la charité, que ce soit dans notre relation à Dieu, que ce soit donc dans notre vie quotidienne. Et puis si on n'y arrive pas, eh bien, répondons au Seigneur. Le Seigneur nous dit, mais pourquoi tu ne revêts pas le vêtement de la charité? Seigneur, convertis-moi. Seigneur, ta miséricorde, j'en ai besoin. Seigneur, ta grâce me suffit. Tout ça, c'est Saint Paul. Le sacrement de la réconciliation dans l'Église est là pour nous donner cette confiance absolue en Dieu, pour grandir dans cette confiance. Nous, certes, nous ne sommes pas aussi convertis que nous voudrions, encore faut-il le désirer quand même, mais nous ne sommes pas aussi convertis que nous voudrions, mais nous ne devons pas douter de la miséricorde de Dieu quand on le lui demande. Et donc, il nous faut dialoguer avec le Seigneur, entrer dans ce dialogue avec lui, et donc prier et nous confier à lui. Il y a un deuxième point que je voudrais aborder pour terminer, c'est que, en fait, les lectures de ce jour, la première lecture, le psaume en particulier, la première lecture et le psaume, sont des lectures qui nous invitent à être dans l'espérance, dans la joie même. L'espérance, parce que justement, cette miséricorde, quand on la demande, quand on dialogue avec le Seigneur, quand on montre au Seigneur notre inconversion, eh bien, Dieu intervient. Il a fait une promesse et il le donnera. Et il intervient personnellement, mais aussi globalement. Encore ce qui a été dit, ce qui a été lu dans la première lecture du livre d'Isaïe. Sur cette montagne, il fera disparaître, donc le Seigneur, le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Et un peu plus loin, en ce jour-là, on dira « Voici notre Dieu. En lui nous espérions, il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Et dans le psaume, « Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Il fera disparaître la mort pour toujours. Un certain nombre d'entre nous, et la communauté paroissiale dans son ensemble, un certain nombre d'entre nous avons vécu de façon particulière cette épreuve d'une famille de la paroisse qui perd un de ses fils à 18 ans. Et je sais, et je tiens à souligner que cela arrive régulièrement au sein de familles. Et on m'a fait remonter durant ces 15 derniers jours-là, où il y avait un élan de prière. Je recevais régulièrement des messages de personnes qui me confiaient la souffrance, soit de la maladie grave de leurs enfants, soit des accidents, soit des morts tragiques de jeunes, d'enfants, de bébés parfois, et d'adultes aussi, de jeunes adultes avec qui laissaient des familles avec enfants, etc. Enfin, tout ça, il y a régulièrement des situations tragiques dans nos vies, qui traversent nos vies, qui traversent certaines vies. Et notre devoir est d'être dans la compassion vis-à-vis des uns et des autres, mais aussi d'être dans l'espérance. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Cette promesse se réalise. Elle se réalisera dans l'éternité au ciel, mais elle se réalise déjà sur la terre dans la foi. Demandons au Seigneur donc de croire vraiment dans ces paroles que le Seigneur nous a données, d'en vivre vraiment pour nos vies. Et puis, on sait jamais comment la mort, les événements tragiques peuvent s'abattre dans nos vies. Mais ce que l'on sait, c'est que nous sommes invités à vivre vraiment chrétiens parce que c'est le meilleur moyen de nous y préparer. De vivre de notre foi, de vivre de l'espérance, de revêtir la charité, de répondre à l'invitation aux noces, d'essayer de vivre de notre mieux notre vie chrétienne et de vraiment entrer dans cette conviction que le Seigneur réalise ce qu'il a promis, hein, d'essuyer les larmes des yeux et de supprimer, de faire disparaître la mort. Donc, là, préparons-nous donc en vivant notre vie chrétienne et puis soutenons ceux qui souffrent parmi nous, prions les uns pour les autres, soyons charitables les uns vis-à-vis des autres. Amen.